tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour cette deuxième web matinale de l'ONV, l'opérateur national de vente, je rappelle filiale du groupe Action Logement, réalisé en partenariat sur notre antenne avec Radio Immo. Alors avec un thème aujourd'hui, la crise immobilière. Avec cette crise immobilière, la vente de logements sociaux est-elle encore possible, est-elle encore réalisable? Bon, certains pourraient ajouter et souhaitable, hein, quand on a à peu près 2,6 millions de Français qui attendent d'être logés dans le parc social. Alors effectivement, continuer à vendre peut interroger au-delà même du contexte économique, un contexte dont on parle beaucoup en ce moment, qui rend l'achat d'un logement compliqué pour de nombreux Français. Alors, lors de cette émission, lors de ce webinaire, il sera question, vous l'avez compris, de la vente sociale en bloc ou à l'unité, plus globalement d'accession sociale à la propriété dans le contexte de crise immobilière que nous venons d'évoquer. Alors, pour en débattre ce matin, avec moi sur le plateau, David Larbaudy, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Ravi d'être avec vous. Directeur général de l'ONV, donc de l'opérateur national de vente, Florence Lourier, bonjour.
Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
Ravi de vous accueillir également, donc directrice générale adjointe, Aude Catrice, bonjour.
Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
Vous êtes la directrice des investissements, à côté de vous Pascal Vacher, bonjour.
Bonjour Bérénice, bonjour
vous
à tous.
Vous êtes le directeur de la vente sociale et nous avons quelqu'un à distance, il s'agit de Robin Rivaton, entrepreneur, investisseur, essayiste, spécialiste de l'immobilier évidemment, et des nouvelles technologies. Bonjour Robin, comment allez-vous?
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, je vous rappelle que c'est en direct, donc vous avez la possibilité de poser vos questions. Il y a le chat, c'est très simple. Vous posez vos questions et nous lirons ces questions et nous y répondrons. Évidemment, alors avant de poser la première question à notre grand témoin, je vous propose d'écouter tout de suite, de rentrer dans le vif du sujet, d'écouter des témoignages d'acquéreurs de l'ONV, tout simplement, qui nous parlent de leur parcours de vie. On les écoute, il s'agit de Fabienne et de Maxime.
Ça a été une recherche d'appartement qui a été assez complexe, qui m'a pris pas mal de temps. Et en tombant sur l'annonce sur le Bon Coin, j'ai immédiatement demandé une visite. Et en rentrant dans l'appartement, c'était coup de foudre. C'est un appartement qui est dans le centre de Lyon, avec toutes les commodités autour. Donc c'est vrai que c'était une acquisition qui était importante pour moi, puisque c'était mon premier logement qui allait me permettre de grandir dans la vie et puis de continuer mon parcours avec ma conjointe, puisque aujourd'hui nous sommes fiancés, donc dans le but de créer notre famille dans cet appartement.
Un agent immobilier et un service financier qui a été très présent dans l'accompagnement, et le prix qui m'était proposé m'a permis de devenir propriétaire, chose qui n'aurait pas été possible sans ces lois qui régissent ce type d'acquisition, et m'a permis également de faire des travaux d'amélioration dans le logement que je connais bien. Et d'ailleurs, la livraison du chantier a lieu en ce moment.
Alors, on a entendu les deux témoignages, hein. On le sent vraiment, cette envie de devenir propriétaire. Ce désir de propriété est très ancré, hein, chez les Français. On dit souvent que les Français ont une pierre dans le ventre. Ça a été confirmé par une récente enquête, hein, de Procivis Harris Interactive et de la Fondation Jean Jaurès, ou encore une étude des Français à la propriété. Alors, question pour Robin Rivaton, qui est à distance. Cette envie, on la sent également chez les jeunes. Cependant, le taux de propriétaires n'a pas beaucoup évolué en 30 ou 40 ans. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas selon vous, Robin? Est-ce qu'on peut faire un comparatif? Que peut-on observer ailleurs?
Oui, je pense qu'on fait face à une crise du logement. C'est suffisamment répété pour qu'on puisse désormais croire à cette malheureuse prophétie. Et on fait encore plus face à une crise du logement abordable. Aujourd'hui, quand on regarde les 20 dernières années en France, on a eu une très forte production de logements qui a permis de masquer plusieurs des problèmes qui se sont creusés dans l'intervalle. Et le premier d'entre eux, c'est un problème qui est lié à l'accès à la propriété. Aujourd'hui, en 2023, c'est la dernière statistique qu'on a, au 1er janvier 2024, donc à fin 2023, on avait un taux de Français propriétaires de leur résidence principale, un peu en dessous de 57%, qui était identique au taux de 2006. Donc on a connu la période des taux d'intérêt les plus bas de l'histoire économique moderne, puisque les taux d'intérêt commerciaux sur le prêt à 25 ans ont été jusqu'à descendre en dessous de 1%, et nous n'avons pas réussi collectivement en tant que pays à faire augmenter la part des propriétaires de leur résidence principale. Je démystifie et je tue tout de suite l'idée qu'il y a des gens qui ne seraient pas propriétaires de leur résidence principale, mais qui auraient pu acquérir un bien, notamment en location ailleurs, et qui le loueraient. C'est le cas assez typique, souvent évoqué, du jeune cadre parisien qui achète un Pinel à Toulouse, dans le sud de la France. Le chiffre des ménages qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, mais qui sont propriétaires d'un autre bien immobilier, est stable, lui aussi à 7%. Donc tout ça mis bout à bout, et surtout quand on le regarde dans une comparaison internationale, nous interroge. Parce que vous l'avez dit, la France était réputée pour être un pays où on avait beaucoup de propriétaires. C'était un discours qu'on entendait beaucoup au tournant des années 2000-2005. On disait que les Français étaient très propriétaires. Aujourd'hui, quand on regarde froidement les statistiques de l'OCDE, la France est le cinquième pays avec le plus faible taux de propriétaires, de ménages propriétaires de leur résidence principale. Derrière nous se situe l'Allemagne, qui est très très bas pour plein de raisons historiques, notamment du fait de la réunification. L'Autriche, qui est très particulier parce que vous avez une ville qui représente quasiment un quart de la population et qui a 70% de logement social en son sein. Vous avez la Suisse, qui est aussi une situation assez particulière puisque le régime fiscal fait qu'il ne faut jamais devenir propriétaire. Et puis après, on se retrouve juste à quelques points derrière les Danois, et on a été rattrapé par beaucoup d'autres pays. Donc aujourd'hui, on voit bien que la France n'est plus un pays de propriétaires de sa résidence principale. Ça va à l'encontre du désir des ménages. C'est pas un choix qui aurait été volontaire, c'est un choix qui est subi, très profondément subi. Et ça doit nous interroger, parce que les conséquences de cette inaccessibilité de la résidence principale, qui encore une fois ont été masquées par l'augmentation du parc social, qui ont été masquées par la forte construction dans le pays, et donc qui ont permis d'en masquer les effets pervers. Mais les effets pervers du fait que les ménages ne sont pas propriétaires sont nombreux. Et j'en cite juste un, qui permettra d'ouvrir le débat pour la suite. Mais on va vers des réformes des retraites qui vont faire que le taux de remplacement, c'est-à-dire la comparaison entre la pension de retraite et le dernier salaire, va diminuer. On est aujourd'hui autour de 70%. On a des réformes qui vont l'amener en dessous de 60%. Et c'est des réformes qui, de mon point de vue, vont plutôt dans le bon sens. Mais il faut bien avoir en tête que lorsqu'un ménage est locataire de sa résidence principale et qu'il voit une baisse de ses ressources de 30 ou 40%, ça veut dire que son budget logement, qui pouvait déjà représenter en moyenne 25 ou 30%, lui va monter à quasiment 50% de ses revenus et de ses revenus disponibles du ménage. Et donc, ça fait vraiment quelque chose de très puissant. Et donc, c'est ce qu'on doit avoir en tête aujourd'hui. C'est ce rapport à la propriété qui est un rapport qui est encore très fort dans notre pays et qu'on n'arrive pas ou qu'on n'arrive plus à satisfaire depuis maintenant près de 18 ans.
Bien, merci beaucoup, Robin. Alors, David, peut-être une réaction. Il y a eu plein de choses très intéressantes qui ont été dites par Robin. Cette envie, elle est là. En revanche, on voit que ce constat est subi par les Français. 57%, c'est le chiffre à retenir, 57% de propriétaires. Ce sont d'ailleurs les derniers chiffres confirmés par tous les professionnels de l'immobilier, les syndicats. Et c'est vrai, la réforme des retraites qu'évoquait Robin, qui vient un peu chambouler. Votre réaction, peut-être ?
Oui, d'abord, merci à Robin. Robin, pendant cette émission, sera notre grand témoin, donc il sera peut-être amené, évidemment, à intervenir tout au long de l'émission. Moi, ce que je peux dire, la première réaction, c'est de dire qu'effectivement, on a, dans la thématique du jour, d'abord cette notion de crise immobilière, et ensuite, dans la thématique qu'on aborde aujourd'hui, c'est est-ce que c'est encore possible ou souhaitable de vendre des logements sociaux dans le contexte que vous avez décrit tout à l'heure. La crise immobilière, c'est vrai que tout le monde l'évoque. On parle de crise structurelle, conjoncturelle, crise de l'offre, crise de la demande. Bon, enfin, je pense que, au fond, tout peut être additionné. Oui. On a une crise qui est évidemment structurelle, puisque ça fait 5 ans qu'on a une production qui est grosso modo sous-offreuse. On a évidemment une crise qui est conjoncturelle, puisqu'elle est liée à la montée des taux, évidemment, brutale, un resserrement des conditions d'accès au crédit. Bon, voilà, donc c'est à la fois une crise qui est conjoncturelle, qui est structurelle, et puis d'un autre côté, on a une crise de la demande et une crise de l'offre. Mais on a aussi à gérer les effets de la crise de la demande sur l'offre. C'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que quand vous avez effectivement des locataires qui ne peuvent pas devenir propriétaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans leur logement. Ouais. Et évidemment, derrière, on a une offre qui se rétracte. Bon. Et puis la deuxième partie de notre thématique aujourd'hui, c'est de dire, et vous l'avez posé, c'est on a 2,6 millions de personnes qui attendent un logement social en France.
Donc, c'est du jamais vu, ça. Hein.
Écoutez, en tout cas, le chiffre grossit d'année en année. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut continuer à vendre du logement, puisque visiblement, nous n'en avons pas assez. À ça, d'abord, je réponds. D'abord, c'est une question qui est évidemment légitime. Je réponds deux choses. La première, c'est que si le logement social ne permet pas à des gens de devenir propriétaires à revenus modestes, mais qui le fera? C'est une question, de mon point de vue, de justice sociale. Sinon, on va vers une fracture, véritablement sociale importante. Donc je pense que c'est dans la responsabilité des bailleurs, mais aussi de la chaîne de responsabilité complète, c'est-à-dire du bailleur jusqu'au banquier, que de permettre à des gens à revenus modestes de devenir propriétaires. Ça, c'est ma première réflexion. La deuxième réflexion, c'est qu'à aujourd'hui, la vente HLM, enfin la vente sociale, je préfère ce terme, la vente sociale n'est plus une option pour les bailleurs. C'est-à-dire que c'est un moyen de financement du secteur qui est devenu totalement incontournable. C'est un dispositif gestionnaire. Aujourd'hui, un bailleur ne peut pas se passer de la vente sociale. Donc, il faut tout mettre en place pour véritablement l'organiser. C'est incontournable. Simplement, c'est dû à deux choses. C'est un désengagement de l'État, qui s'est fait progressivement, mais qui aujourd'hui est complètement constaté. Et puis, le deuxième point, c'est évidemment les difficultés qu'ont rencontrées les bailleurs avec l'augmentation des taux, oui. Et évidemment des autofinancements qui sont venus s'effondrer. Donc voilà, donc je pense que moi, si vous voulez, la vente, elle est non seulement possible, elle est souhaitable, et même si la crise est là, je crois qu'on a tout intérêt, nous, à nous organiser, et c'est ce qu'on fait notamment au sein de l'ONV, pour encourager, pour rendre effective cette vente sociale, qui pour moi est un acte de justice sociale, et tous les jours, c'est le métier qu'on s'emploie à faire à l'ONV.
Donc la vente est possible et souhaitable, c'est les mots qu'on retient. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions et qu'on y répond sur le chat en direct. Est-ce qu'il y a des questions
Pour l'instant, il n'y a pas de questions.
Ok, n'hésitez pas, en tout cas, on est là pour y répondre. On va passer à la deuxième partie de ce webinaire. Donc, on l'a dit, possible et souhaitable, cette vente de logement social. En revanche, quelles sont les conditions pour réussir un programme de vente sociale? Quel type de patrimoine aussi? C'est une question qu'on peut se poser. Quels sont les critères? Ce sont les points que nous allons aborder tout de suite. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Tout de suite, première question à Aude Catrice. Alors, en 4 ans, avec votre équipe, vous avez acquis près de 230 actifs, soit 8000 logements, ce qui représente un immeuble acquis par semaine partout en France. C'est quand même non négligeable. D'après votre expérience, quels sont les patrimoines, on va dire, adaptés à une opération de vente sociale?
Alors, merci Bérénice. Donc effectivement, grâce à ces nombreuses acquisitions réalisées, mais aussi, je dirais, grâce au retour d'expérience issu des 112 biens déjà mis en commercialisation, on peut essayer de dresser un profil type ce matin d'un patrimoine adapté à une opération de vente sociale. Je pense que déjà, il faut bien avoir en tête, quand on se lance dans une opération de vente sociale, que nos premiers clients, ce sont finalement les locataires en place. On en parlait effectivement il y a quelques minutes. Donc le premier critère qu'on va prendre en compte, c'est la capacité des locataires à devenir propriétaires de leur logement. Cette capacité, on va la mesurer déjà à travers l'âge, pour déterminer s'ils sont finançables, et puis aussi les revenus, bien évidemment, pour déterminer leur solvabilité. Et un élément qui a été aussi cité par Robin tout à l'heure, c'est le taux d'effort et c'est le saut de charge entre j'étais locataire hier et je vais devenir propriétaire. Ensuite, au-delà de cette capacité A, il faut bien évidemment que le locataire ait envie d'acheter son logement. Donc, le deuxième conseil que j'aurais à donner, c'est d'essayer de se mettre à la place, finalement, de ce locataire ou de l'acquéreur final, d'une façon générale. Donc, essayer de se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qu'un acquéreur potentiel va regarder comme critère? Qu'est-ce qui va, finalement, déclencher l'acte d'achat? Là, moi, j'identifie déjà deux types de critères principaux. Le premier qui, je pense, fera consensus, c'est bien évidemment l'emplacement. En immobilier, c'est assez connu. Donc, l'emplacement, ça veut dire la proximité, premièrement, à son lieu de travail. On rappelle le lien emploi-logement qui est bien évidemment important. Donc, on va cibler des patrimoines qui sont proches d'un bassin d'emploi avec une dynamique économique importante. On va regarder aussi le cadre de vie, l'environnement immédiat, éventuellement la tranquillité résidentielle ou encore, bien sûr, la proximité aux commodités, commerce, etc. Et deuxième type de critère, ça va être les qualités intrinsèques de l'immeuble et du logement. Avec, par exemple, la qualité du bâti. Donc, un acquéreur potentiel va privilégier un logement dans lequel il y a peu ou pas de travaux à court terme. Il va plutôt privilégier un logement qui bénéficie d'un espace extérieur, d'un balcon ou encore d'un ascenseur.
Très demandé depuis les confinements, d'ailleurs.
Et depuis, effectivement, l'effet Covid, l'espace extérieur est très important. Et un autre élément aussi qui est important de plus en plus chez les ménages depuis quelques années, c'est bien sûr la performance énergétique. Bien sûr. À travers l'étiquette DPE, et je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard.
Alors, DPE, diagnostic de performance énergétique.
Exactement, merci de le rappeler. Donc, une fois qu'on a fait ce premier filtre, élément important aussi, c'est de s'assurer que finalement, le patrimoine qu'on a ciblé est bien en adéquation avec son marché. Un peu tendance à l'oublier. Du coup, j'invite vraiment fortement l'ensemble des bailleurs à faire une étude de marché. Une étude de marché qui va permettre de s'assurer, par exemple, que la taille du patrimoine qu'on a ciblé est cohérente avec la profondeur de marché. Que le type de logement qu'on va proposer est bien adapté à la demande. On évite de mettre un immeuble collectif à la vente sur un marché dit d'individuel. Et puis enfin, surtout, bien évidemment, on va s'assurer que les prix de marché constatés, donc l'ensemble des comparables, sont bien en adéquation avec nos objectifs de plus-value, donc chers aux bailleurs sociaux, bien évidemment, puisque c'est l'objectif. Et on ne fait pas l'inverse, on ne va pas déterminer ces prix de revente en fonction d'un objectif de plus-value. Je finirai par aussi deux indicateurs qui sont bien évidemment essentiels dans une opération de vente sociale, c'est la vacance et la rotation, c'est-à-dire les libérations de logements au fur et à mesure des années. Puisque la libération, la rotation va permettre finalement de venir compléter la vente aux locataires par de la vente de logements vacants. Et comme l'a rappelé David tout à l'heure, on a cet effet vertueux de la vente sociale avec un logement vendu qui permet de créer en moyenne 3 nouveaux logements. Donc, la libération permet de créer plus d'offres de vente en logement. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, parmi l'ensemble de ces critères pour dresser ce profil type de patrimoine adapté à la vente sociale, c'est qu'on voit qu'il y a les types de critères comme l'emplacement ou les qualités intrinsèques sont finalement des données qui vont peu évoluer, enfin qui n'évolueront pas dans le temps ou sur lesquels on a une maîtrise dans le temps. En revanche, quand on parle de données de marché, de rotation, de solvabilité des locataires, là on est sur des données qui vont évoluer pendant le temps de la commercialisation, qui va durer environ 10 à 15 ans. C'est un temps long, donc il peut se passer plein de choses. Et on le voit bien qu'en temps de crise, on a des indicateurs qui vont complètement se dégrader. Donc c'est vrai qu'une vente en bloc à un opérateur comme l'ONV, ça va permettre finalement de transférer ce risque de dégradation de ces indicateurs. On va transférer le risque commercial à cet opérateur tout en continuant de générer en masse des fonds propres qui vont permettre de construire de nouveaux logements.
Bien, merci beaucoup Aude Catrice. Alors là, on l'a bien compris, donc tous ces critères permettent le choix du patrimoine. Donc une fois que le patrimoine a été sélectionné, les logements doivent être vendus. Mais la vente sociale est-elle une vente comme les autres? C'est la question que nous allons nous poser.
Alors, je m'adresse désormais à vous, Pascal Vacher. Alors, Aude vient d'évoquer les caractéristiques patrimoniales hein, d'un actif adapté à une vente sociale, une opération de vente sociale. Alors, on le voit, l'occupation sociale est une donnée clé, sous-entendu la capacité des locataires à acheter. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Pascal Vacher, la vente sociale est-elle une vente immobilière comme les autres ? Voilà. Est-ce que c'est une transaction comme les autres ?
Alors, je vais répondre de manière très directe. Non. Ce n'est pas une vente comme les autres.
Au moins, c'est clair.
Voilà, c'est clair, il faut l'être. C'est une vente qui se distingue particulièrement au travers du levier social qu'elle représente auprès des locataires du parc social, mais également sur l'ensemble des avantages qu'elle peut proposer. Alors, les particularités de la vente sociale, moi, je les définis sous trois angles. Tout d'abord, une vente qui est encadrée et réglementée. Et ça, c'est important de le rappeler, puisque cet encadrement permet de garantir l'accession au logement prioritairement aux locataires occupants, tout en favorisant la mixité sociale. Alors, quel mécanisme pour favoriser cette mixité sociale ? Un prix attractif, une décote de 20% qui est proposée aux locataires occupants, un processus de vente qui est clair, un accompagnement qui est clair, et des garanties, des sécurisations qui sont proposées systématiquement dans le parcours du locataire. Je pense par exemple à la garantie 3R de revente, relogement et rachat qui est systématiquement proposée. Un deuxième axe, comme l'expliquait très clairement Aude, c'est une vente patrimonialement qui est sécurisée. Cette sécurisation, elle nous permet de proposer des logements qui sont extrêmement bien placés, au plus près des infrastructures, des commerces, des transports, des écoles. Également de proposer des logements de belle facture, bien construits, correctement entretenus, réhabilités, qui permettent aux locataires occupants et donc à la personne qui achète de se projeter de manière sereine sur la pérennité et la valorisation de son bien. Également, on veille, et il y a toujours dans les propositions qui sont faites des logements, à ce qu'il n'y ait pas de travaux lourds qui soient à la charge du locataire et, oui. Et de l'acquérant, puisqu'on réalise en amont et pendant la commercialisation l'ensemble de ces travaux. Et également, de faire en sorte qu'on ait des logements au travers de ces travaux, et on va en parler, qui proposent des étiquettes énergétiques pour permettre aussi aux locataires, là aussi, d'appréhender sereinement la réglementation existante et celle à venir. Mais enfin, et je dirais presque surtout, ça se caractérise, la vente sociale, au travers d'un parcours d'acquisition qui est proposé. Alors, le locataire qui souhaite acheter est accompagné, il en a besoin. C'est important puisque une vente, quelle qu'elle soit, est de toute façon un moment qui est toujours anxiogène. Donc à partir de là, nous, au travers des critères réglementaires, on se positionne comme un accompagnateur social vis-à-vis de l'acquérant. Pourquoi cet accompagnement ? Acheter, c'est s'endetter. S'endetter, c'est inquiétant. Donc, pourquoi répondre à cette inquiétude et comment répondre à cette inquiétude ? On le fait au travers de différents outils, différentes prestations que l'on met à disposition du futur acquéreur. Je pense particulièrement au conseil en financement et acquisition qui est proposé par Action Logement Service. Au travers de ce conseil en financement, automatiquement sont proposées l'ensemble des aides financières sociales existantes. Je pense aux prêts accession, action logement ou aux prêts à taux zéro, qui sont des leviers forts pour permettre aux locataires occupants de pouvoir mener correctement son plan de financement. Et également, on accompagne en s'entourant de partenaires qui ont les mêmes valeurs que nous. Je pense particulièrement à notre réseau de commercialisateurs ou notre réseau de notaires qui sont aussi, avant tout, dans cette démarche de conseil et d'accompagnement. Enfin, nous avons, et c'est extrêmement important aussi, développé des outils de formation. C'est-à-dire que notre travail ne s'arrête pas à la vente. Après la vente, nous continuons à accompagner, alors cette fois pas des locataires occupants, mais des copropriétaires, pour leur permettre, alors au travers de cycles de formation, de e-learning qui sont proposés, d'avoir des réponses aux questionnements qu'ils peuvent avoir sur la vie de la copropriété et sur la manière de gérer leur logement au sein de cette copropriété. Alors vous le voyez, c'est l'ensemble de ces dispositions et de ces dispositifs qui caractérisent la vente sociale et qui ont permis à l'ONV à ce jour de réaliser près de 800 ventes et d'avoir accompagné près de 800 familles dans leur parcours d'acquisition. Donc vous pouvez le constater, c'est une vente qui est quand même à part, qui ne se distingue vraiment au travers de l'ensemble de ses caractéristiques. Et cette vente, elle permet d'apporter une réponse simple, pérenne, accessible à une grande partie des locataires occupants en leur proposant un logement qui est financièrement abordable, de qualité et idéalement situé. Mmh.
Donc un accompagnement complet. Alors avant de passer à la quatrième partie de nos débats, on va retrouver nos témoignages, nos deux acquéreurs du début, donc Maxime et Fabienne, qui justement vont nous expliquer, vont nous parler de ce point que vous avez évoqué, un point qui est devenu central dans l'acte d'achat, une préoccupation majeure pour les acquéreurs.
C'est un appartement qui... Donc, qui a un ravalement de façade qui a été fait assez récemment, donc qui respecte pas mal de normes écologiques, donc qui est pratique pour est bien insonorisé, bien entretenu, et ça permet une qualité de vie importante. Ça permet d'avoir un havre de paix quand on rentre chez soi le soir.
Le DPE, les travaux ont été réalisés avant la vente de l'immeuble, pardon, de 3F à l'ONV. Donc au niveau des PE, c'était complètement OK.
Alors on l'a compris, c'est la rénovation énergétique, hein, une préoccupation majeure, un des enjeux majeurs du secteur aussi. C'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis 2 ans maintenant. Qu'est-ce que ça change pour les acquéreurs? Est-ce que ça change la donne justement pour les acquéreurs? Quatrième partie de notre webinaire et une question pour vous, Florence Laurier. Alors, est-ce que la question de l'étiquette énergétique, hein, qui est fixée par le DPE, le diagnostic de performance énergétique, et plus globalement l'enjeu de la rénovation énergétique devient centrale? Comment doit-on appréhender cet enjeu au moment de mettre en vente un logement, vendre en l'état, réhabiliter, donc faire des travaux de rénovation énergétique? Et si oui, quel est le but de ces travaux?
Donc, je vais faire une réponse extrêmement claire également. La réponse est oui. Donc, on le sait aujourd'hui, le secteur HLM est en responsabilité face à l'urgence climatique. Donc, l'ONV ne fait évidemment pas exception sur ce sujet. Et à ce titre, la rénovation énergétique est bien un enjeu central pour nous. Aujourd'hui, on ne pourrait pas envisager de faire de la vente sociale sans prendre en compte cet enjeu-là. Cet enjeu, il faut le replacer à travers deux éléments de contexte. Le premier élément de contexte, c'est une donnée de marché et qui tourne autour de ce que l'on appelle communément la valeur verte, qui est un sujet qui commence à enfler. Et pourquoi ce sujet commence à enfler? Parce que cette valeur verte, il y a quelques années, on pouvait considérer qu'elle n'existait pas ou peu. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ce constat. C'est-à-dire que là où un acquéreur, il y a quelques années, ne se souciait pas en premier lieu de la valeur énergétique de son logement ou des émissions de gaz à effet de serre de son logement, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il va considérer dans ses premiers critères, dans son acte d'achat. Donc, à ce titre-là, en tant que données de marché, nous, on est obligé de prendre ça en considération puisque ça va influer sur sa décision d'achat, mais aussi sur la valeur patrimoniale du bien qu'il achète, tout simplement. Et puis, le deuxième élément de contexte, c'est que, tout simplement, l'ONV doit inscrire sa stratégie dans le cadre de la loi climat et résilience. On ne fait pas exception non plus sur ce point-là. Donc, ça nous engage. Et ça nous engage d'autant plus qu'on appartient au groupe Action Logement, qui a des ambitions extrêmes, des objectifs extrêmement ambitieux sur ce sujet-là. Pour mémoire, le groupe vise l'atteinte de l'étiquette C minimum pour l'ensemble de son parc à horizon 2030, en résumé. Donc, on s'inscrit au sein de l'ONV également dans ces enjeux-là. Il faut aussi avoir en tête que la rénovation énergétique, en tant que sujet que l'on traite à l'ONV, c'est aussi, par ricochet, une manière de contribuer à créer des copropriétés pérennes. Et donc, à ce titre-là, c'est un élément de sécurisation qui vient s'ajouter aux éléments que Pascal énonçait tout à l'heure. Sécurisation pour nos acquéreurs, puisque ça signifie que les travaux que l'on va mener, nos acquéreurs n'auront pas à les prendre en charge dans les années qui viennent. Et ça, pour des ménages qui ont des budgets modestes, puisque c'est notre cible prioritaire, c'est un élément qui est extrêmement important. Donc, une fois qu'on a posé tout ça, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que ça veut dire pour les bailleurs et pour les équipes de Aude quand on travaille sur l'acquisition d'un patrimoine ? Ça veut dire qu'on va travailler, quand on va examiner l'état du bâti, on va se poser des questions sur des éléments qui sont très classiques, de pérennité du patrimoine, d'éléments de commercialité, mais ça veut dire que dans l'examen que l'on fait du bâti, on regarde aussi la question de sa performance énergétique et de sa performance en matière de durabilité plus globalement. Et ça veut dire que nos équipes évaluent le besoin de travaux à réaliser et que dans notre programmation de travaux, on inclut un volet performance énergétique en tant que de besoin pour viser cette fameuse étiquette C.
Donc on l'a bien compris. David, vous vouliez rebondir ?
Non, simplement, c'est parce que comme je suis le gardien des questions
alors, y a des questions
sur le chat. Donc la première question, et peut-être qu'on pourra demander aussi peut-être l'avis de
bien
Robin,
sûr, notre bien grand sûr, témoin, Robin
sur ce qui,
là,
vient
ouais.
d'être, ce qui vient d'être dit. Là, la question, elle revient évidemment sur toutes les élèves. C'est une question donc de Jean-Christophe, Grand Dijon Habitat, d'ailleurs, qui est un opérateur qu'on connaît. Donc je lis cette question en direct. Notre organisme observe depuis plusieurs années un ralentissement des achats par les locataires occupants. Contexte économique oblige. Pensez-vous que de nouveaux leviers seraient nécessaires pour dégripper le système ? Et il nous pose la question, évidemment, en qualité de leader de la vente sociale en France. Je ne sais pas si Robin est toujours parmi nous, et si sur ce volet,
Robin
il a quelques commentaires à faire.
Alors Robin, on vous écoute.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour dégripper justement la situation ?
Je suis là, évidemment, parmi vous, David. Le sujet, juste pour encapsuler ce qui vient d'être dit, hein, le sujet énergétique est évidemment crucial désormais pour les acquéreurs, mais surtout il vient dans le cadre d'un coût global lié au logement, puisqu'on voit qu'au-delà du loyer, les autres postes de charge du logement, que ce soit l'assurance, que ce soit évidemment les consommations énergétiques, que ce soit les travaux de maintenance du bien, sont devenus de plus en plus importants au fil des années. Et donc dans cette stratégie, je parle même pas du coût du financement, mais dans cette stratégie de coût global du point de vue de l'acquéreur, évidemment, il y a beaucoup plus d'attention qui est portée à la qualité du bien, là où autrefois les raisonnements portaient beaucoup sur la quantité, notamment les mètres carrés. Et on voit bien qu'aujourd'hui commence à se dessiner une plus forte variabilité des prix en fonction de la qualité des biens. Et ça va aller, jusque vous l'avez dit, jusqu'à des notions de confort d'été, du fait extérieur aussi, évidemment. Mais on voit bien que c'est un point très important, puisque ça fait que pendant très longtemps, on a raisonné, que ce soit à l'échelle statistique ou que ce soit du point de vue du marché, pour un logement vaut un logement et le mètre carré et l'étalon, le mètre étalon de cette industrie. On voit bien qu'aujourd'hui, les notions de qualité viennent vraiment l'impacter très fortement. Sur la question de la capacité à redonner du pouvoir d'achat aux acquéreurs et donc d'avoir un plus fort taux de cession de ce patrimoine-là, on voit bien qu'on est extrêmement dépendant des politiques monétaires, que celles-ci ont été très très dures pour lutter contre une crise énergétique. Hein. Faut aussi rappeler de la raison de cela. On avait un tout petit peu début d'inflation, mais pas du tout dans les proportions qu'on connaissait. Et puis on a eu cet effet à la fin avec la guerre, l'invasion de Russe en Ukraine, qui a fait qu'on a eu une explosion de la facture énergétique et donc en répercussion de pas mal d'autres biens manufacturés qui ont fait qu'il a fallu intervenir de manière massive. On peut espérer une normalisation de la politique monétaire. Et puis après, la question qui peut se poser, c'est quels outils la politique budgétaire, donc cette fois l'État, peut mettre en œuvre pour favoriser cette accession, et s'il le veut. Aujourd'hui, vous avez un débat parmi les économistes et au plus haut niveau de l'État avec beaucoup de gens qui sont opposés à faire croître cette part de propriétaires au sein de la population. Et donc, je dirais qu'avant de penser à la boîte à outils, on a un combat idéologique ou culturel à mener et de faire en sorte de faire comprendre que être propriétaire de son bien et de sa résidence principale, ce n'est pas figer la société, ce n'est pas refléter un conservatisme quelconque, mais c'est surtout protéger les individus et leur permettre de participer à quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, l'immobilier est quand même le facteur principal de création du patrimoine. Tout simplement parce que c'est l'outil ou c'est la classe d'actifs sur laquelle on permet à des ménages modestes, même s'ils ont été beaucoup exclus de cela, mais en tout cas des catégories, des classes moyennes, d'accéder à l'endettement. Or, une grande partie de la création de patrimoine se fait grâce à l'endettement, et c'est par l'immobilier que ça se fait. Et donc, si on ferme les robinets d'endettement, de l'accession à la propriété, il y a beaucoup de ménages qui n'auront pas de création de patrimoine net. Et ça, c'est un vrai problème au-delà de, parce que d'un point de vue des inégalités, on a vraiment le risque d'avoir une augmentation forte des inégalités avec des gens qui ne peuvent pas créer de patrimoine, pendant que ceux qui en ont peuvent, eux, avoir recours à ce levier de la dette et donc en avoir plus.
Eh bien, merci beaucoup, Robin. Une petite réaction peut-être, David ?
Oui, alors à l'ONV, on n'a pas la prétention de dégripper le système à nous tout seuls, mais on a mis en place, et peut-être que Pascal pourra décrire un peu les dispositifs qu'on met en place, notamment au sein de l'ONV, pour mettre en confiance, donner l'envie à ceux qui ont envie. Enfin, je ne veux pas caricaturer une
non, mais
chanson.
C'est vrai, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'endettement peut effrayer.
Donner l'envie d'avoir envie, c'est-à-dire que, grosso modo, on est dans un système où, aujourd'hui, la confiance est un peu bloquée, au-delà même des facteurs qui sont liés, évidemment, au taux d'intérêt, etc., qui sont évidemment des leviers majeurs. Mais il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire c'est comprendre que dans la vente sociale, on est accompagné, on est sécurisé, etc. Et puis, on a mis en place des dispositifs, nous, spécifiquement, que Pascal peut peut-être décrire pour...
Oui, merci David, j'en ai rapidement parlé lors de ma prise de parole, mais c'est vrai que par exemple, le conseil en financement et accession qui est proposé est un des leviers extrêmement importants, parce que comme son nom l'indique, c'est vraiment du conseil qui est apporté. Alors,
au cas par cas, en fait.
Au cas par cas, à chacun des acquérants. Entendons-nous bien, on ne parle pas de courtage, on parle vraiment d'accompagnement, d'explication, de formation, d'information, dans le but justement de rassurer et dans le but à un moment aussi d'être capable de dire, même si réglementairement on ne peut pas s'y opposer, en tout cas d'expliquer à un locataire occupant que dans sa situation, ce n'est pas encore le bon moment pour devenir propriétaire. Vous voyez, ça va vraiment jusqu'à là. Donc ça fait partie d'un des leviers.
En fonction de ses revenus, des taux.
Exactement, de sa situation.
Voilà,
on est vraiment sur cet accompagnement. On a également des démarches auprès de partenaires bancaires où on va les rencontrer afin de leur demander d'avoir une approche sociale de l'ensemble des candidats, de pouvoir proposer des conditions préférentielles. Alors, pas tout en termes de taux, parce qu'une banque, elle a ses conditions, mais plus en conditions d'apport personnel, de conditions financières qui peuvent permettre de débloquer une situation qui, par nature, aurait pu être bloqué par la banque parce que initialement elle ne rentrait pas dans ses schémas initiaux.
Donc vous négociez un petit peu.
Voilà, on négocie. Enfin, en tout cas, on propose, bien entendu, on explique bien l'offre de l'ONV et on propose à ses partenaires bancaires de pouvoir nous accompagner dans le cadre de ces démarches auprès des locataires occupants. Puis surtout, enfin, j'en parlais aussi de toutes nos formations, nos e-learnings. Je veux dire, le fait de savoir pour un locataire occupant que à l'issue de la vente, l'ONV sera toujours présent et continuera à l'accompagner, c'est aussi pour lui un gage de sécurité. Et nécessairement, il est vraiment en confiance dans l'ensemble des prestations qu'on peut lui proposer et dans l'accompagnement qu'on lui propose pour devenir propriétaire.
En fait, au final, c'est beaucoup de pédagogie pour
rassurer.
C'est
énormément de pédagogie. Je le disais, vous le répétiez, s'endetter, c'est être inquiet, surtout quand on est sur des revenus contraints ou modestes. Donc, plus on va apporter du conseil, plus on va apporter de l'information, plus on va rassurer, plus on pourra vraiment accompagner le locataire occupant, l'acquéreur dans son parcours résidentiel.
Oui, je voudrais peut-être poursuivre un peu sur cette thématique-là, qui est évidemment une thématique importante, puisqu'on a un certain nombre de questions, mais qui tournent un peu autour de cette thématique-là. Là, on a parlé vraiment de l'aval de la chaîne. Mais je voudrais revenir un tout petit peu en amont, et notamment sur une idée que je crois importante à souligner, c'est le partage de la valeur. C'est-à-dire que quand un bailleur, par exemple, décide de faire de la vente à l'unité ou décide de faire de la vente en bloc à l'ONV, je crois qu'il faut, à un moment donné, avoir une réflexion, peut-être pas uniquement financière. C'est-à-dire de ne pas regarder nécessairement la marge qu'on attend lorsque l'on vend, etc. Bien sûr qu'elle est importante, évidemment, pour un bailleur, puisque on l'a dit, et en tout cas je l'ai dit au départ dans mon introduction, que l'avantage HLM était devenu un mode de financement. Mais il n'empêche que si on veut pouvoir proposer des logements attractifs, ce sont d'abord aussi et surtout des logements attractifs en termes de prix. Et donc, il faut accepter aussi, à un moment donné, de consentir peut-être un partage de la valeur. Je ne sais pas si Aude, là-dessus, veut réagir, mais c'est une bataille qu'on cherche à mener, sachant que, et je le dis tout de suite, l'ONV n'a pas vocation à faire de bénéfices à proprement parler. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les opérations soient équilibrées et de faire en sorte qu'on ait le plus de locataires occupants qui deviennent propriétaires.
Donc le plus important, ce n'est pas les marges, en fait, c'est ce que vous dites.
Mais je dis la marge, oui, mais pas seulement.
Pas seulement.
Voilà.
Oui, exactement. C'est vrai qu'il faut, ce qu'on essaie en tout cas à l'ONV, c'est d'essayer de toujours trouver cet équilibre entre suffisamment de marge et de plus-value pour le bailleur pour qu'il puisse finalement reconstituer des fonds propres et construire plus. Et puis en même temps, pouvoir proposer aux locataires et aux acquéreurs extérieurs finalement effectivement des logements à prix abordable. Donc c'est vrai que nous, au moment de la valorisation, on va toujours prendre en compte une décote qu'on va réaliser pour les locataires occupants. Nous, à l'ONV, on est sur une décote de 20%, mais je crois que c'est assez usuel, de toute façon, chez les bailleurs sociaux, d'appliquer des décotes pour les locataires occupants. Et puis, il y a aussi, tout de même, je parlais du marché tout à l'heure, il faut aussi avoir en tête qu'en général, on applique un abattement entre un prix de marché dit privé et le marché social. C'est vrai qu'on considère souvent, alors ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, je ne veux pas stigmatiser le logement social, mais il arrive souvent que les prestations ne soient pas tout à fait les mêmes que dans le privé, et donc c'est ce qui explique d'appliquer cette décote. Donc il faut vraiment effectivement que les bailleurs jouent le jeu, même dans le cadre de la recherche de plus-value, mais vraiment jouent le jeu de proposer des logements à prix abordable, effectivement.
David vous vouliez réagir ou c'est...
Non, je me demandais si Robin avait, sur ce qu'on venait de dire, une remarque, un commentaire à faire.
Non, je pense qu'on l'a dit, c'est aujourd'hui un mode d'accession à la vente de logements sociaux est un mode d'accession à la propriété pour des ménages modestes. Il faut bien avoir en tête qu'on a fait le choix, notamment pour des raisons environnementales, de supprimer ou de mettre fin à la construction du pavillonnaire, notamment du fait de la loi zéro artificialisation nette. Le pavillonnaire était le mode d'accession à la propriété des ménages les plus modestes, puisque c'était l'objet immobilier dont le coût de production était le plus réduit. Il avait un certain nombre de problèmes, un éloignement des centres économiques et des centres de vie qui faisait qu'il y avait une dépense assez importante en transport, parfois des faibles performances thermiques pour les plus anciens, c'était pas le cas des nouveaux. Mais en ayant fait ce choix-là, qui est un choix, de mon point de vue, qu'on pourrait contester ou challenger, mais en tout cas qui a été fait, et la filière est en train de disparaître progressivement, aujourd'hui, on a absolument besoin de compter sur la vente de logements sociaux pour continuer d'assurer à minima une capacité des catégories, des classes moyennes, des catégories populaires à accéder à la propriété. Et c'est une responsabilité lourde, puisqu'il se produisait quand même près de 120 000 pavillons, logements individuels. Tout n'était pas du pavillonnaire comme on pourrait le qualifier, mais on va dire que 80 000 là-dessus étaient du pavillonnaire. Et donc c'est une responsabilité lourde qui pèse aujourd'hui sur la vente du parc social. Et j'espère qu'on pourra, par des mécanismes, on l'a dit, d'incitation, l'accélérer, puisque si on réussit pas, encore une fois, on va se retrouver avec une aggravation du phénomène que je décrivais en introduction, qui est qu'on a exclu une partie croissante de la population de l'accès à la propriété de sa résidence principale.
Alors, Aude-Catrice, vous vouliez réagir ?
Oui, et compléter également le propos. Quand on parle aussi de solvabilisation des acquéreurs ou des locataires, on l'a dit tout à l'heure, mais je vais le redire, les travaux, et pas forcément sur la performance énergétique, mais l'ensemble des travaux vont jouer un rôle important. Donc, c'est pareil, quand un bailleur met en vente un patrimoine, il faut aussi jouer le jeu de réaliser suffisamment de travaux pour ne pas que les futurs acquéreurs aient de travaux lourds à payer dans les 5, ouais, voire même 10 ans. Donc je pense que c'est aussi important à avoir en tête pour la solvabilisation des acquéreurs.
Oui, David.
Moi, j'aurais une question à poser à notre grand témoin. Bon, j'ai une partie de la réponse pour ce qui me concerne, mais c'est intéressant justement d'avoir ce grand témoin qui n'est pas comment complètement concerné par la vente sociale. Robin Rivaton, depuis 1965, le secteur pratique la vente HLM, en tout cas la vente sociale, avec des objectifs qui étaient pour le secteur fixés à 40 000 logements par an. Aujourd'hui, on observe qu'on plafonne entre 10 et 11 000. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a un secteur qui ne s'est pas complètement emballé et qui n'a pas, qui ne considère pas la vente sociale aujourd'hui comme complètement indispensable. Alors même qu'en introduction, j'ai expliqué qu'il fallait quand même sans doute s'y mettre. Est-ce que là-dessus, vous avez, vous, un avis, un commentaire, une observation ?
Oui, c'est... Quand on fixe un objectif et quand on en atteint 25%, dans n'importe quelle organisation normale, on s'interroge soit sur l'objectif, soit sur les moyens qu'on a mis en œuvre pour l'atteindre. Et comme cela a été dit, malheureusement, c'est pas un phénomène conjoncturel. C'est structurellement, on plafonne à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, encore une fois, comme je le disais, avec la responsabilité nouvelle qui pèse sur ce mode d'accession-là, pour offrir un canal d'accession aux catégories les plus modestes et aux classes moyennes, je pense qu'il est temps de mettre en place des outils d'incitation plus forts. On sait que chez les bailleurs, le mouvement commence, en tout cas s'est accéléré récemment du fait d'une augmentation de la contrainte financière pesant sur eux. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, du point de vue de l'État, de donner plus d'incitations pour que du côté des bailleurs, que du côté des préfectures, on n'ait pas toujours des difficultés qui peuvent exister sur la cession de ce patrimoine et qu'on lève que ce soit des barrières matérielles ou des obstacles parfois, on va dire, idéologiques à cette modalité-là, qui est encore une fois une modalité dont on a décidé collectivement qu'elle était importante. Vous mentionnez le chiffre des 40 000, et je pense que si on était réaliste, et encore une fois, vu ce qui a été décidé sur la disparition ou la condamnation de certaines productions de logements neufs, on devrait revoir ce chiffre de 40 000 à la hausse, et donc on doit aujourd'hui se poser la question des freins et des résistances qui existent, qui sont matériels, qui sont aussi idéologiques dans un certain nombre de cas.
Merci Robin Rivaton. Alors je rappelle que vous pouvez poser vos questions, hein, n'hésitez pas, on y répond. Robin Rivaton a évoqué l'État, justement, on va développer un petit peu plus. Alors lorsqu'un programme de vente est envisagé et que tous les indicateurs sont au vert, comme on l'a entendu, il reste un déterminant incontournable, il s'agit des élus et on va en parler tout de suite. Alors, quand on parle de vente sociale, on dit souvent qu'il faut convaincre les élus, David. Pourquoi ?
Alors, c'est vrai que, d'abord, un patrimoine, il n'est jamais hors sol. Il est toujours sur un territoire, oui, avec des habitants, etc. On a dit que dans un des critères, justement, d'acquisition, c'était la dynamique du territoire, etc. Et donc, sur les territoires, il y a forcément des élus. Bien sûr. Et ces élus, ils sont incontournables. Dans la vente HLM, on a un acteur majeur qui est le préfet. C'est celui qui autorise la vente HLM, parce que c'est peut-être une précision, mais je pense que nos auditeurs et spectateurs le savent, c'est-à-dire que pour faire de la vente HLM, faire de la vente sociale, il faut une autorisation. Bon. Cette autorisation, elle est donnée par le préfet, mais souvent, l'avis du maire compte. Bon. Et on s'aperçoit, nous, quand même, il y a un mouvement qui existe où aujourd'hui, on a des élus qui craignent la vente sociale. Ils la craignent parce qu'ils redoutent potentiellement des copropriétés dégradées. Ils redoutent évidemment de voir fondre leur quota de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU. Bon, voilà, il y a un certain nombre de manifestations chez eux où parfois la vente sociale n'est pas complètement bien accueillie. Bon. Et ils craignent aussi parfois les investisseurs spéculateurs, c'est-à-dire que ceux qui viendraient acheter pour derrière faire des plus-values à la revente en ayant acheté évidemment des logements sociaux pas chers. Là-dessus, avant que Florence n'intervienne sur le sujet, je crois, c'est de rappeler deux choses. Un, dans le logement social, il n'y a quasiment pas de copropriété dégradée. Donc ça, il faut évidemment sans doute le souligner. Et puis, Pascal l'a dit tout à l'heure, et on l'a rappelé, je crois, tout au long de cette émission, la vente sociale, elle est très, très, très encadrée. Donc, il n'y a pas d'investisseurs, spéculateurs, etc. Je rappelle juste, mais j'imagine que nos auditeurs ou spectateurs le savent, c'est qu'on ne peut acheter dans notre vie qu'un seul logement social. Donc, on ne peut pas...
C'est important de le rappeler.
Oui, on ne peut pas se faire un patrimoine sur le dos, on va dire, des bailleurs sociaux. Ouais. Et ça, là-dessus, nos partenaires notaires, nos partenaires notaires sont extrêmement, évidemment, vigilants. Bien. Voilà.
Alors justement, pour rebondir sur ça, Florence, David vient d'évoquer le sujet qui préoccupe, qui peut faire peur, qui peut effrayer les maires au moment d'autoriser les ventes sociales. On en parle aussi beaucoup dans l'actualité avec une loi qui est passée, le risque de copropriété dégradée. Que répondez-vous aux maires justement à ce sujet ?
Alors c'est vrai que quand on rencontre les maires, c'est une inquiétude qu'on rencontre très souvent. Et pour mettre en perspective, l'ONV, sur son cycle d'activité, prévoit d'acquérir 40 000 logements à horizon 2035. 40 000 logements, ça veut dire qu'on va créer 800 copropriétés. Donc c'est beaucoup quand même à l'échelle d'un secteur. Donc c'est évidemment une préoccupation légitime de la part des élus. Et pour nous, c'est une préoccupation majeure que ces copropriétés que l'on crée quasiment quotidiennement, elles soient saines dans leur fonctionnement au fil des années. Donc on porte une responsabilité sur ce sujet-là, c'est indéniable. Vous avez parlé de la loi sur les copropriétés dégradées. Ça permet de poser, et David l'a dit, que le monde HLM aujourd'hui n'est pas pourvoyeur de copropriétés dégradées. De l'accession sociale à la propriété dans le neuf, de la vente HLM, on en fait depuis des décennies et il n'y a pas de sujet majeur de création de copropriétés dégradées par le secteur HLM. C'est même plutôt le contraire, comme on le voit à travers la loi récente que vous avez évoquée, où le secteur HLM est plutôt appelé à la rescousse de situations qui sont plus majoritairement le fait de l'habitat privé. Donc, à l'ONV, on n'entend pas devenir producteur de copropriétés dégradées. Et c'est donc une vigilance constante chez nous sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, depuis l'acquisition jusqu'à la cession et pendant la période de portage. Donc, la stratégie que l'on a mise en place sur ce sujet et que l'on expose régulièrement aux élus sont d'abord les choix qui sont très structurants dans notre organisation et notre modèle que l'on a évoqué déjà au cours de ce moment, c'est-à-dire une sélection très vigilante des patrimoines que l'on achète, avec un cycle de travaux important, si besoin, comme l'a décrit également Aude, tout le dispositif de sécurisation des accédants qui est inhérent à la vente HLM dont Pascal a parlé, et puis l'accompagnement à la formation, à leur futur rôle de copropriétaire, et ça c'est vraiment central chez nous dans notre dispositif. Et puis après, sur le volet de la copropriété, on a fait des choix qui nous sont propres, mais dans lesquels on croit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on le peut, on va aller sélectionner des syndics qui sont issus du monde HLM, puisque l'ONV n'est pas lui-même syndic. Donc quand on crée une copropriété, on doit désigner un syndic.
Et le rôle du syndic est primordial. Hein.
Exactement. C'est vraiment l'acteur central de copropriété. Et donc ça, c'est la colonne vertébrale de notre dispositif. Et à chaque fois que l'on peut, on choisit un syndic issu du monde du logement social et qui travaille dans le respect des valeurs du syndic social et solidaire. Nous-mêmes, on a mis en place une charte du syndic responsable sur laquelle on s'appuie et qui reprend ses engagements et ses valeurs. On audite aussi en interne régulièrement la qualité de nos syndics. Donc tout ça pour dire que sur la question des syndics et de la qualité de service qu'ils délivrent, on est exigeant et on est vigilant. Et ensuite, on a également une politique de prévention, puisque c'est mieux de prévenir par essence, sur un certain nombre d'indicateurs que l'on suit, qui sont calés sur des indicateurs qui sont mis en place également par l'ANA, sur la détection de la fragilisation des copropriétés. Donc, on s'assure d'indicateurs qui sont assez classiques, hein, mais qui portent sur l'impayé éventuel d'une copropriété. Comment est-ce que fonctionne sa gouvernance? Est-ce que quand la copropriété doit voter des travaux, elle le fait? Voilà, donc on s'est penché très, très vite sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est un sujet qui doit encore vivre, hein, puisque l'ONV n'a que 5 ans et que l'avenir de nos copropriétés est vraiment devant nous. Donc les années qui viennent, là, vont être majeures. Mais on est complètement mobilisés, en tout cas, pour rassurer les élus et nos accédants sur ce sujet-là.
Alors, l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, hein, je
Exactement.
Précise. Petite question, peut-être, pour rebondir sur la stratégie que vous évoquiez, hein, par rapport aux élus. À l'approche des municipales, bon, ce sera en 2026, mais 2026, c'est demain. Est-ce que cette stratégie, vous, là, modifiez un petit peu? Est-ce que vous êtes amené à l'intensifier?
Alors aujourd'hui, on a un socle stratégique qui est déjà assez solide. Ce qui est certain, c'est que dans des contextes politiques qui évoluent, ce sont des discours de conviction, de bonnes paroles à aller porter, qui sont évidemment sans cesse renouvelés.
Oui, sur ce point, il y a peut-être un commentaire à faire. C'est vrai qu'il y avait une loi, la fameuse loi logement là, qui avait été lancée, bon, qui a été évidemment...
Début juin à l'Assemblée nationale.
Début juin, et qui, évidemment, compte tenu du contexte politique, est désormais en stand-by. Mais il y a une partie du dispositif de la logement qui redonnait aussi un tout petit peu plus de pouvoir, notamment sur les autorisations de vente HLM, ou enfin, en tout cas de vente sociale, aux maires. Donc ça veut bien dire que la préoccupation, c'était de se dire qu'il fallait qu'on replace en fait le maire au cœur du dispositif, même si, d'une manière générale, il l'a toujours été.
Oui, il l'est plus ou moins, mais là, c'était vraiment
oui.
L'asseoir dans ses responsabilités.
Oui, oui, complètement. Et puis, il y a un autre thème aussi qui revient du côté des élus, et ça me donne l'occasion de pouvoir en partie répondre peut-être à la question de Mylène, qui dit est-ce que l'ONV pratique l'acquisition ou la revente sociale sous la forme de bail réel solidaire, donc le fameux BRS. C'est vrai que du côté des élus, il y a un engouement sur ce dispositif-là.
Alors, vous pourrez nous rappeler ce que c'est, pour rappeler à nos auditeurs?
Alors, le BRS, en fait, c'est un dispositif qui permet de faire de la vente en faisant une dissociation entre le foncier et
le
bâti. Voilà. Oui. Et donc, c'est un dispositif qui est très encadré. Au départ, c'est un dispositif qui était plutôt, d'ailleurs, dédié dans le neuf. On l'a essayé de tordre et qu'on essaye d'adapter un peu à la vente sociale, mais qui n'est pas complètement adapté. Donc, il y a des choses sur lesquelles on se pose encore un certain nombre de questions, en tout cas au sein de l'ONV. Mais la principale vertu qu'y voient les maires, c'est le fait d'avoir un dispositif où, un, on maintient le quota de vente, de logements sociaux sur son territoire. Et puis, on a un dispositif qui est un dispositif où on permet davantage de solvabiliser, évidemment, les acquéreurs, et tout en évitant le risque de spéculation, etc., etc. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai engouement. On a assez peu de recul sur ce dispositif-là.
Parce que c'est assez récent. Hein,
c'est assez récent. Et surtout, c'est assez récent de l'utiliser pour faire de la vente sociale. Ouais. Donc là-dessus, on est en train, effectivement, nous, de s'interroger. Mais peut-être que Aude peut compléter ce point, puisque je sais qu'elle y a travaillé. Mais tout le monde est invité, évidemment, à le compléter. Hein.
Alors oui, effectivement, on a commencé à y réfléchir, mais comme le dit David, c'est un dispositif récent, donc on tord un peu pour l'adapter à de la vente sociale. Et puis on a surtout remarqué que l'utilisation resterait, en tout cas pour nous, marginale et plutôt sur des zones ultra tendue.
Oui, où le foncier est très cher. En fait, c'est là l'avantage de ce dispositif.
Hein. Effectivement. Voilà. Après, il faut aussi avoir conscience que c'est vraiment un dispositif poussé plus par les collectivités que par les bailleurs eux-mêmes. Hein, on parlait justement de freins tout à l'heure à la vente sociale, donc avec effectivement pas mal de territoires qui sont vraiment défavorables à la vente sociale.
Mmh. Une autre petite réaction sur le BRS
Non. Ah bah, très clairement, moi, tous les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour accompagner des locataires occupants dans leur parcours résidentiel est bon à prendre. Donc, bon, comme le disait Aude et David, il y a encore des adaptations à faire sur cet outil. On espère à l'ONV rapidement pouvoir faire une première expérimentation et pouvoir accompagner des locataires justement dans le cadre de leur parcours résidentiel sur cette offre qui va permettre, en dissociant justement le bâti du foncier, de proposer des logements encore plus accessibles financièrement à nos locataires.
Mmh. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, David, sur le chat, justement ? Je rappelle que c'est le moment de les poser, on y répond tout de suite.
Eh bien, écoutez, les auditeurs et les spectateurs ne sont pas très bavards.
Alors, c'est qu'on a été clair.
Oui, soit on a été clair, soit on a été, je ne sais pas, trop bavard.
Alors, peut-être Robin Rivaton, qui est encore avec nous, peut-être votre avis sur le BRS. C'est vrai qu'on vous a pas posé la question. C'est un modèle assez anglo-saxon, hein, ça plaît beaucoup en Angleterre. Justement, son introduction en France, selon vous, est-ce que ça pourrait aider à favoriser l'accession ?
Alors, le contexte de crise du logement dans lequel nous sommes, toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Le BRS en fait sans doute partie. Mais je pense qu'il y a un décalage entre les promesses attendues de ce dispositif et ce qui en ressortira réellement. Aujourd'hui, les BRS, les baux réels solidaires livrés en 2023, s'élevaient à 4 000, ce qui est un chiffre honorable, hein, mais je rappelle que sur la production de logements neufs, on est sur un décalage. On a perdu 150 000 logements en l'espace de 3-4 ans. Donc on voit bien qu'on est c'est pas la solution ou la baguette magique qui va résoudre tous nos problèmes. Et puis, le BRS, le bail réel solidaire, cette dissociation entre le bâti et le foncier, c'est une idée qui a été très, très largement explorée dans beaucoup de pays à travers beaucoup de modèles, qui est une idée qui est séduisante sur le papier et qui fonctionne bien si la collectivité ou la puissance publique, en tout cas l'opérateur public qui représente l'intérêt général, qui va être le porteur du foncier, peut en récupérer la propriété réellement à un moment. Et donc, en récupérer la propriété réelle, ça signifie dans un horizon de temps qui soit raisonnable. Aujourd'hui, quand on voit des baux réels solidaires de 99 ans rechargeables une fois ou plusieurs fois, comme ça existe en France, il n'y a pas de possibilité pour la puissance publique de récupérer le terrain. Et donc, on est dans un simple mécanisme de subvention, où la puissance publique va tout simplement subventionner un bien pour des occupants qui vont pouvoir l'occuper pendant une durée. Et personne ne raisonne à 99 ans dans nos sociétés. Quand vous avez un droit à 99 ans, c'est un droit quasi réel et quasi certain. Donc aujourd'hui, on a un vrai équilibre à trouver dans ce mécanisme-là, entre le côté séduisant et attractif et le fait que l'outil puisse vraiment servir les intérêts de l'intérêt général et pas seulement les intérêts des heureux chanceux qui peuvent rentrer dans ce dispositif avec des prix décotés. Et c'est toujours un sujet extrêmement délicat puisque la reprise du foncier est très compliquée. Quand vous avez quelqu'un qui est dans les murs, dire on va racheter les murs à une valeur résiduelle parce qu'ils ont été largement amortis, et on va reprendre la propriété du foncier, ça crée des blocages très très forts. Et je soulignerai juste que le pays qui est peut-être l'inventeur de la dissociation entre le bâti et le foncier, puisqu'elle a été mise en place lors de l'invasion des Normands de l'Angleterre en 1066, au moment où Guillaume le Conquérant a divisé les terres britanniques pour les donner à ses lieutenants, ça s'est poursuivi à travers une longue chaîne pendant un millénaire. Aujourd'hui, vous avez 20-25% des biens immobiliers britanniques qui sont soumis au régime du leasehold, c'est autrement dit, ils ne sont pas propriétaires du terrain sur lequel est bâti le logement, et le gouvernement, en tout cas au Parlement britannique, il y a actuellement une loi pour supprimer cette existence du régime du leasehold et remettre tout sous le régime du freehold, donc remembrer la dissociation entre le bâti et le foncier. Donc je comprends qu'on est à la recherche de solutions et il faut les explorer, mais il faut garder raison gardée et ne pas se précipiter sur des choses qui ne peuvent pas être massifiées. Un mot de conclusion, je pense que on l'a dit, la France... J'ai envie de dire, la France n'a pas encore connu la crise du logement, et c'est là où les choses sont assez terribles, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des situations du logement très très dures, très difficiles, et en réalité on va rentrer dans le dur d'un point de vue macro dans les prochaines années, tout simplement parce que on a ce décrochage de la production de logements qui est très très forte, on va passer de 400 000 à 250 000, qui fait que ces 150 000 logements en moins chaque année auront des répercussions avérées dans un marché où la demande reste forte, une demande qui reste forte liée à une concentration de la population dans les zones les plus tendues, liée à la décohabitation, donc au fait que les gens vivent de plus en plus seuls, et liée à un dynamisme démographique, même s'il est en train de se réduire effectivement parce qu'il y a une baisse des naissances, mais il y a toujours un excédent démographique dans les zones les plus tendues. Si je répète souvent ce chiffre, mais vous avez 80 000 naissances de plus que les décès en Île-de-France, vous avez 80 000 décès de plus que les naissances dans le reste de la France. Donc on voit bien que ces facteurs font qu'on a une demande qui est très forte, on a une offre qui est en très très forte réduction, donc on va rentrer dans une crise du logement, on va encore avoir plus de mal que l'on a eu à satisfaire les souhaits ou les desiderata d'accession à la propriété de sa résidence principale, et je pense que l'on a un levier, un outil très puissant, le logement social à la française est un outil absolument indispensable, c'est quelque chose qui a fait ses preuves, qui a permis de maintenir les loyers, il y a plein de choses à améliorer, c'est sûr, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses très positives qui ressortent de cette industrie, et je pense que la cession du patrimoine à ses occupants est un outil qui doit permettre à la fois de produire des ressources pour les opérateurs et à la fois de permettre de satisfaire ses souhaits ou ses désirata d'accession à résidence principale, notamment pour des ménages de classe moyenne et modeste qui vont être quand même les principales victimes de la disparition de certains modes d'habitat, notamment du pavillonnaire. Merci beaucoup pour votre invitation.
Merci beaucoup, Robin Rivaton.
Une bonne journée.
Merci d'avoir été notre grand témoin merci. Tout au long de ce webinaire. Le mot de la fin, ça va être avec vous, David, pour conclure.
Oui, alors je veux simplement dire à Bertrand qui a posé une question, mais qui concerne directement en fait l'ONV, de savoir si on est capable de faire par exemple de l'expérimentation sur de l'achat à l'unité, de petits blocs reconventionnés, etc. On le contactera, évidemment, puisqu'on a son adresse mail, et donc on lui répondra directement. En guise de conclusion, moi, je voulais simplement vous dire que on vient de voir, au travers de cette émission, que le désir de propriété, il est profondément enraciné, vraiment dans la culture française. Parce que, c'est une idée auquel je crois, évidemment, lorsque j'ai pris les rênes de cet outil un peu innovant, enfin un peu, même extrêmement innovant, au sein du groupe Action Logement, c'est devenir propriétaire, si vous voulez, c'est pas seulement faire un investissement immobilier. Hein. Devenir propriétaire, c'est vraiment vouloir transmettre un patrimoine, c'est vouloir se mettre à l'abri au moment de la retraite. C'est un mode de vie tout à fait particulier. Et derrière, on a évidemment des aspirations légitimes, hein, de stabilité, de sécurité, d'indépendance, de liberté, mais aussi de valorisation sociale. Donc, je pense que on a une aspiration forte, un désir de propriété qui reste là. Et c'est vrai que le contexte aujourd'hui de crise contrarie un peu les projets d'un certain nombre de Français, en particulier ceux qui sont ménages à revenus modestes, et que nous, bailleurs sociaux, on a vraiment une responsabilité, mais avec l'ensemble des acteurs de la chaîne, hein, y compris ce que je disais en introduction, jusqu'aux banquiers, pour justement rendre possible l'accession à la propriété. Je ne rebondis pas évidemment sur les propos de Robin, mais enfin, on voit bien que ça c'est quand même une notion extrêmement importante. Et puis, En guise de conclusion, je voudrais rappeler que la philosophie de l'ONV est assez claire. C'est, notre objectif, ce n'est pas de vendre à tout prix hein, des biens. C'est véritablement de vendre à ceux qui en ont envie et qui ont les moyens. Donc, il n'y a pas de vente forcée à l'ONV. Il n'y a pas tout ça. Voilà. On est vraiment dans un accompagnement. On est vraiment dans rassurer, sécuriser. Et c'est bien toute la philosophie de la vente sociale. Et c'est la raison pour laquelle nous y croyons dur comme fer et que l'ONV est devenue en 5 ans un acteur majeur et qu'il va continuer très vraisemblablement à l'être. Voilà, merci à vous.
Eh bien, merci beaucoup, à tout le monde. Merci pour ce webinaire, merci à vous quatre.
Je voulais juste peut-être avant de terminer, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de le faire, je voudrais juste faire un remerciement particulier à Emma et à Fabienne qui ont évidemment contribué à organiser cette émission et je sais que c'est du travail. Voilà.
Oui. Merci beaucoup à elle. Merci aussi à nos acquéreurs Maxime et Fabienne pour leur témoignage. Donc merci à vous quatre en plateau. Merci à tous. On espère que ce webinaire vous aura éclairé en tout cas sur le sujet de la vente sociale. Vous pouvez retrouver le replay sur le site de l'ONV, l'opérateur national de vente, et puis sur Radio Immo également. Et puis pour terminer, nous vous invitons à regarder un petit clip vidéo.
You make my life still growing, bringing the sun and the sowing. Some little seeds of sunny flowers, beautiful as your smile. We make this road becoming beyond the fears and tears, a common dream, a real home, where we'll say home, sweet home, home.